Bonjour chers auditeurs de Radio Silence, voici l'actualité religieuse de cette semaine sainte et de Pâques. Un livre extraordinaire, autre bonne nouvelle, Rome et la Fraternité Saint-Pédis et Islam. Un livre extraordinaire. COSTA, le groupe d'études et de promotion de la Sainte Tunique d'Argenteuil de l'UNEC, communique, je cite, parution de notre livre Acte du colloque La Sainte Tunique et les autres reliques du Christ du 9 avril 2011 à Argenteuil, en auto-édition, 280 pages, dont 180 en couleur, avec des textes de conférences passionnants sur la Sainte Tunique d'Argenteuil, mais aussi sur la relique des sandales du Christ à Prüm en Allemagne, professeur Gérard Lucotte. La deuxième image de la Sainte Face, qui a été récemment découverte au verso du linceul de Turin, professeur Giulio Fanti, Padoue, etc. Prix catalogue 30 euros, frais d'envoi compris, mais prix spécial, auditeur Radio Silence, 25 euros, en se référant tout simplement à la présente émission sur Radio Silence. Pour l'instant, nous avons fait imprimer 150 exemplaires de ce superbe livre grand format et les premiers 100 exemplaires sont partis en 2 semaines. Suite à la parution de notre livre, déjà la revue renommée romaine Vatican Magazine en allemand a publié dans son numéro de mars 2012 un article élogieux de 4 pages, pages 28 à 31, sur nos recherches sur les sandales du Christ à Prüm. Sur la page 88 de nos actes à la fin de l'étude sur les sandales du Christ, on trouve d'ailleurs en clair la liste de nos 21 donateurs pour financer les recherches faites par le professeur Lucotte. Voici leurs initiales PA, RA, DB, JPB, AC, NC, PC, YC, DD, RDO, RDI, FF, LF, LG, FL, JL, MG, AMPP, CP, SDS, WW. Vous pouvez de nouveau participer à une collecte de dons que nous organisons pour les nouveaux travaux amenés par le professeur Gérard Lucotte, d'une part sur les pollens et spores découverts sur la Sainte Tunique, un sujet passionnant qui révélera définitivement, suivant les premiers résultats, l'origine orientale et même palestinienne de la tunique d'Argenteuil. Et d'autre part la continuation de ses recherches sur les sandales du Christ avec des nouveaux prélèvements faits en avril 2012 sur la relique. Les résultats de ces recherches avec la liste des donateurs seront de nouveau publiés le moment venu par nos soins. Vos chèques sont à adresser à UNEC, boîte postale 70114, 95210 Saint-Gratien, en spécifiant si c'est pour l'achat du livre Acte, 25 euros, ou pour les recherches. Vous pouvez aussi régler par PayPal sur la page d'accueil du site UNEC, www.radio-silence.tv. Autre bonne nouvelle. SOS Maman, l'œuvre de l'UNEC pour sauver les bébés directement de l'avortement, annonce qu'un bienfaiteur leur a offert une Volvo 740 Brake Turbo, essence, 25 ans d'âge, mais seulement 150 000 km au compteur, une voiture qui a toujours été abritée au garage. C'est un cadeau du ciel pour les petits déménagements de nos petites mamans et autres courses SOS, qu'il soit ici chaleureusement remercié. Rome et la Fraternité Saint-Pédis. Le Vatican a annoncé qu'il attend sur demande du Saint-Père lui-même une ultime réponse de la part de la Fraternité Saint-Pédis pour le 14 avril 2012, avant de statuer si, oui ou non, la pleine communion peut être rétablie entre les autorités de l'Église catholique et la Fraternité Saint-Pilis. En fait, les explications doctrinales fournies jusqu'à présent par la Fraternité par rapport aux thèses élaborées par le Concile Vatican II, notamment l'œcuménisme, le dialogue interreligieux et la collégialité entre les évêques, ne seraient pas suffisantes pour être acceptées par le Vatican. La Fraternité Saint-Pilis, de son côté, a appelé tous les catholiques à intensifier leurs prières en ce temps de la Passion et de la Résurrection du Christ, afin que la volonté de Dieu soit reconnue et faite. On ne peut que s'étonner, chers auditeurs, de l'apparente rigueur du Vatican face à la Fraternité Saint-Pilis. Cette rigueur, elle ne la manifeste pas aux Anglicans qui viennent par dizaines de milliers rejoindre l'Église catholique sans qu'on parle un mot de doctrine ou de théologie. Il ne la montre pas non plus aux Uniates qui ont quitté la secte orthodoxe tout en conservant tous leurs rites et même leurs expressions théologiques. Ainsi, on peut facilement vérifier, par exemple à l'église Saint-Julien le Pauvre, en face de Notre-Dame à Paris, dans le quartier latin donc, que les Uniates melkites, pourtant en pleine communion, comme on dit, avec Rome, récitent pertinemment le credo en ne professant pas le filioque, c'est-à-dire que le Saint-Esprit est ici du Père et du Fils. Précision pourtant hautement dogmatique du credo catholique. Pourquoi le Vatican n'accepte-t-il pas que la Fraternité refuse de prononcer le Vaticanoque, affirmation maintes fois moins théologique que les termes du credo? En réalité, le Concile Vatican II ne fut pas un concile dogmatique, mais selon sa propre définition, un concile pastoral cherchant des orientations pastorales appropriées à l'époque moderne. Vu d'aujourd'hui, les décrets de ce concile ressemblent à des homélies des années 60, pas seulement dépassées, mais foncièrement ambiguës et finalement dans leurs effets catastrophiques pour l'Église. Pourquoi le Vatican s'y accroche-t-il aujourd'hui désespérément, au point de risquer que la meilleure partie de l'Église, son propre cœur, la tradition millénaire, soit exclue de son sein à cause d'un concile pastoral d'il y a 50 ans? Mystère. Selon les pères de l'Église, la Sainte Tunique inconsutile symbolise l'impérieux désir de Jésus, « ut unum sint », qu'il soit un. En fait, même les larbins sous la croix n'ont pas osé la diviser. Qui, quel criminel, oserait déchirer l'Église une sainte catholique et apostolique? En attendant, prions avec insistance que l'Esprit Saint intervienne en force le 14 avril à Rome. Islam. Partout des morts par attentat islamiste. Monsieur Merah n'en est que le dernier exemple bestial. Bien sûr, tous les musulmans ne sont pas des terroristes. Pourtant, presque la totalité des terroristes sont des musulmans. On nous dit qu'il ne s'agirait que d'une infime partie des croyants en Allah. Ne nous cachons pas les yeux. Vérifions tout droit auprès de la source, le Coran. Au moins 10% du livre entier sont colériques, extrêmement violents envers les autres humains. Les incroyants de toute race et de toute religion autre que l'islam ont pour lot commun d'être insultés, tourmentés, maudits, brûlés et tués par tout moyen imaginable, et cela non pas seulement par Dieu, mais par les musulmans. Rien que la sourate 2 contient 14% de versets colériques. Les non-musulmans sont dignes des pires insultes. Ils sont comme des singes que l'on rejette, numéro 65, comme des bêtes, numéro 171, stupides, numéro 13, aveugles, numéro 18, à humilier, numéro 61, chassez-les, combattez-les, tuez-les, numéro 191, 194, 244. appliquer leur la loi du talion, numéro 178 et 179. On voudrait croire que cette première et principale sourate n'est pas représentative de l'ensemble, et que le ton change dans celles qui suivent dans le Coran. Or, on a vite fait de se rendre compte que ce n'est pas la pire des sourates, que le livre entier est émaillé des mêmes menaces, et que la verve pour en exprimer l'âpreté ne cesse de s'amplifier. Qu'il soit taillé en pièces, sourate 3, 127. Détruit, sourate 3, 141. Combattez les adeptes de Satan, sourate 4, 76. Saisissez-les, tuez-les, où que vous les trouviez, sourate 4, 89 à 91. Leur salaire sera d'être tué ou crucifié ou d'avoir une main et le pied opposé coupé, sourate 5, 33. Âme pour âme, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent, sourate 5, numéro 45. Frappez-les sur la nuque, frappez-leur les doigts. Sourate 8, 12. Vous ne les avez pas tués, c'est Dieu qui les a tués. Sourate 8, 17. Nous envahissons leur pays et les réduisons de toutes parts. Sourate 13, 41. Nous allons détruire les coupables et vous installer à leur place sur cette terre. Sourate 14, 13 à 14. Nous ferons d'eux une moisson sans vie. Sourate 21, 15. On leur versera de l'eau bouillante sur la tête, leurs entrailles et leurs peaux en seront consumées, à eux les fouets de fer. Sourate 22, 20 à 21 et 22. Quand vous rencontrez des incroyants, frappez-leur la nuque jusqu'à les abattre et liez-les bien fort. Sourate 47, 4, etc. Chers auditeurs, en lisant tout cela, c'est non seulement l'étonnement que l'on ressent, mais la consternation, voire l'effroi. Nous vivons avec 1 milliard d'hommes sur cette planète qui vénèrent religieusement, dit-on, ces textes, qui les étudient, copient, apprennent par cœur, distribuent, et certains vont jusqu'à les exécuter, admirés forcément par les autres musulmans, puisque les terroristes font courageusement et exactement ce qu'a prescrit le Coran. Cela promet pour l'avenir, puisque le religieux a le vent en poupe pour le millénaire débutant. On va tout droit vers l'affrontement universel voulu par l'islam. Les attentats partout, comme hier au Liban et aujourd'hui en Irak, au Kosovo, en Afghanistan, en Libye, en Syrie, et finalement la guerre dans les rues, dans les escaliers, dans les familles même. Ne nous bouchons pas les yeux. Les signes du temps sont faciles à interpréter. La vérité est là. Face à ce fleuve de haine, il y a pourtant un autre message sur terre, depuis Jésus-Christ. Aimez-vous les uns les autres. Personne n'a plus d'amour que celui qui donne sa vie pour un autre. Ce que vous aurez fait au plus petit, c'est à moi que vous l'aurez fait. Heureux les pauvres, heureux les doux, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Un jour, un Samaritain marchait de Jérusalem à Jéricho, et il trouva sur son chemin un blessé laissé là pour mort sur le bord du chemin. Mais le Samaritain se pencha sur lui, etc. Quelle paix, quelle douceur, quel amour divin rayonne de tels versets. Ce sont les versets du Nouveau Testament, annonçant le royaume de Dieu, vers lequel seul notre Sauveur Jésus-Christ nous donne l'accès depuis, puisqu'il est Dieu. Il n'y a rien de commun entre la vie naturelle et la vie divine, l'homme et Dieu, la terre et le ciel, le Coran et le Christ. Seul Jésus, le Fils de Dieu, vivant, le Rédempteur et Sauveur, pur amour, agneau de Dieu, nous ouvre la voie de l'un de ces deux mondes à l'autre, du royaume terrestre à la cité de Dieu. Les deux étant pourtant intimement entremêlés, la Civitas Dei de Saint Augustin. Mais comment faire? Comment faire face à ce terrifiant dilemme de l'humanité? Trois manières d'agir s'offrent aux chrétiens. Premièrement, raser les murs, ne rien dire, être tolérant, mettre son drapeau dans la poche, en manœuvrant sa petite personne tranquillement vers le salut. C'est le chemin le plus facile, mais en rien conforme à l'Évangile. Deuxièmement, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est la voie politique, la méthode asiatique des fausses courbettes. C'est la voie de l'Union européenne, de l'ONU, la paix sans Dieu, l'unité et l'union illusoire du monde, le règne de Satan habillé en règne de Dieu, la forme la plus habile et la plus répandue pour nous détourner de la vraie attitude chrétienne qui est la troisième. Troisièmement, faire courageusement face à la réalité qui est malheureusement la non-entente entre la nature et la surnature, entre le règne de l'homme et celui de Dieu, et propager la loi divine qui est surtout amour, sachant qu'il mène à la croix. C'est la voie de la sanctification personnelle, oui, mais aussi celle de la mission, décriée aujourd'hui comme prosélytisme et intolérance, du don de soi, de l'amour total vécu tout au long d'une vie humaine. C'est aussi la réponse à l'islam. Non à l'islam, oui aux musulmans futurs chrétiens. Chers amis, réfléchissons sincèrement comment annoncer l'Évangile à nos futurs frères, actuellement musulmans, comment les amener au Christ qui est le chemin, la vérité et la vie, aussi pour eux. C'est l'enjeu de notre époque sur lequel on nous jugera. Sur les portes de quelle église peut-on trouver l'affiche « Cours de catéchisme pour musulmans » ? C'est une question de charité sans laquelle nous-mêmes, nous n'obtiendrons pas le salut éternel. Lui, il a donné sa vie pour eux. Il faudra bien qu'on le suive maintenant. Comme déjà relaté ici, un premier institut de catéchèse pour musulmans a ouvert ses portes à Vienne, en Autriche, avec la bénédiction spéciale du cardinal Ratzinger, devenu entre-temps Benoît XVI. Voilà des signes du temps encourageants. Europe chrétienne, réveille-toi, ta voix est là face au fléau de l'islam. Voir aussi le livre « Petit guide du courant » de L. Lagartempe, édition Concept 2002, pages 18 à 21. Sur cela, je vous souhaite, chers auditeurs, au nom de toute l'équipe de Radio Silence, une très joyeuse fête de Pâques. À bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir.